J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu! Tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus.
Salut tout le monde et bienvenue sur Aléa. C'est Robin qui vous parle et aujourd'hui on s'intéresse à la modélisation de l'espace dans les jeux de société. Alors je ne veux pas parler de l'espace céleste, celui à la conquête duquel on se lance dans de nombreux jeux de science-fiction, mais bien de la dimension physique, l'espace qui façonne nos plateaux de jeu pour y définir des territoires, des distances, des mouvements, et qui apparaît dans la plupart des jeux de stratégie comme un enjeu essentiel. L'exploration, la conquête, l'exploitation et la défense de cet espace comme objectif de jeu. Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'atome constitutif de cette représentation physique, sur la brique élémentaire de tous les plateaux de jeu, la case. Cette case qui vient paver l'espace et en démarquer la plus petite portion utilisable, la case délimitante et indivisible. Alors on trouvera évidemment des jeux de plateau spatialisés qui se passent de cases. Warhammer par exemple est un jeu de figurines dans lequel l'espace n'est ni plus ni moins qu'une reproduction continue d'un champ de bataille. Continue au sens mathématique du terme. Il n'y a pas de coupure dans cette représentation de l'espace, pas de pixels ou d'atomes, il n'y a pas de cases et les distances se mesurent alors comme dans la vraie vie avec une règle graduée. Mais pour simplifier le monde qu'il représente, le jeu a fatalement recours à la discrétisation. Découper le monde en valeurs entières et dénombrables. On accumule des points de victoire, on modélise des caractéristiques par des nombres entiers et on mesure les distances en comptant des cases. D'accord, mais pour vous, ça ressemble à quoi, une case? Si vous avez l'habitude des jeux de stratégie combinatoire, comme le go, les échecs, les dames, la première forme qui vous vient à l'esprit est sans doute le carré. Une case, c'est carré, et quand il y en a plusieurs, ça forme une grille. Et pourtant, dans la grande majorité des jeux de stratégie récents, comme les Colons de Catan, Terraforming Mars, La Vallée des Mammouths, Scythe, Keyflower, Taluva, The Island, Mémoire 44, Full Metal Planet, Twilight Imperium, une case, c'est pas carré. Une case, c'est hexagonal. Bon, mais est-ce que ça change quelque chose au fond, un carré ou un hexagone? Est-ce juste une histoire de goût ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Alors pour commencer, le pavage carré, la grille si vous voulez, c'est assez pratique pour attribuer des coordonnées. Une case est identifiée par deux nombres, le numéro de la colonne et celui de la ligne. On parle de coordonnées cartésiennes qui modélisent les deux directions principales de l'espace plan, nord-sud et est-ouest. Si on retire l'altitude, on est en effet habitué à travailler dans un espace à deux dimensions orthogonales, gauche-droite et avant-arrière. Mais peut-être avez-vous déjà remarqué que lorsque vous expliquez des règles de déplacement sur un pavage carré, il y a toujours un petit malin ou une petite maline pour vous interrompre et demander d'un air mesquin. Est-ce qu'on peut se déplacer en diagonale? Eh bien voilà, parler des cases adjacentes d'une case carrée, ben c'est pas clair. Parce que certaines cases partagent une arête, il y en a 4, mais d'autres partagent également un sommet, ça fait 4 de plus, et du coup on sait plus de quoi on parle. Alors que dans le cas des hexagones, il y a peut-être moins de cases adjacentes, 6 au lieu de 8, mais elles ont la présence d'esprit d'être toutes adjacentes de la même manière, en partageant une des 6 arêtes de l'hexagone de départ. Bon, mais si ce n'était que l'ambiguïté des règles de déplacement, il suffirait juste de répondre poliment « non, on ne peut pas se déplacer en diagonale ». Mais le pavage carré pose également un problème vis-à-vis de la mesure des distances. L'espace parcouru sur la grille est complètement distordu. Comptez par exemple le nombre de mouvements non diagonaux qu'il faut faire pour rejoindre deux coins diagonalement opposés sur un échiquier. Peu importe la manière dont vous y prenez, en faisant des zigzags, il faudra parcourir 14 cases. Maintenant, mesurez la largeur de ces cases, disons 3 cm. 3 fois 14, ça fait donc un mouvement de 42 cm. Mesurez ensuite la distance diagonale qui sépare effectivement ces deux coins. Grosso modo, 30 cm. Avec des déplacements orthogonaux, vous avez donc parcouru 1,41 fois la distance réelle qui vous séparait de votre destination. 1,41, racine de 2 pour être précis. Les distances discrétisées par les cases carrées ne correspondent pas aux distances physiques qu'elles représentent sur le plateau. S'il y a également des effets de distorsion avec le pavage hexagonal, il se trouve que la distance entre le centre d'un hexagone et le centre de chacun de ses 6 voisins est toujours la même. La mesure des distances est ainsi bien mieux conservée, 15% d'erreur au maximum contre les 41% du pavage carré. Mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de cases possibles ? Si on met de côté les plateaux de jeu représentant des territoires aux contours variés, plus géographiques comme Risk, Small World ou Diplomatie, on cherche généralement au contraire à avoir sur le plateau une seule forme de case, et que cette forme soit régulière ou symétrique. Tous les côtés et tous les angles doivent avoir la même valeur. Or, la géométrie planaire nous apprend qu'il existe seulement trois pavages réguliers, le carré, l'hexagonal et le triangulaire. La question est donc réglée une bonne fois pour toutes. Si vous voulez des cases régulières, vous n'avez que ces trois options. Et donc, pourquoi pas le triangle ? Ben, parce que déjà, un triangle, c'est encore plus mal foutu en termes de voisinage. Ça a seulement trois voisins d'arêtes, plus trois voisins diagonaux, et encore six voisins de sommet, mais pas tout à fait dans la diagonale. C'est le bazar. En plus, les erreurs de mesure peuvent monter jusqu'à 50% des distances parcourues. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez déjà essayé de faire tenir plusieurs pions ou plusieurs figurines dans un triangle ? C'est pas pratique du tout. L'espace central est complètement engoncé entre les trois angles aigus, et il y a plein d'espaces gaspillés dans les coins. Et c'est là encore que l'hexagone brille de ses propriétés géométriques. L'hexagone est un optimal isopérimétrique. Alors, l'isopérimétrie, c'est l'étude des formes géométriques qui ont le même périmètre. Imaginez que vous avez un bout de ficelle d'un mètre de long, dont vous nouez les deux extrémités pour former une boucle. Vous pouvez alors dessiner toutes sortes de formes, de courbes fermées avec cette corde. Elles auront toutes le même périmètre, mais celle qui délimite la plus grande aire, celle qui ne gaspille pas d'espace, c'est le cercle. Mais bon, on ne va pas aller très loin avec des cases circulaires si on veut en encastrer plus d'une pour paver notre plateau de jeu. Mais parmi les polygones permettant de paver l'espace plan, l'optimal isopérimétrique, c'est l'hexagone. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve dans la nature, à de multiples endroits. Les alvéoles d'abeilles, par exemple, qui permettent de découper l'espace disponible dans la ruche en minimisant la quantité de cire à produire, donc en maximisant l'aire de stockage pour une enveloppe donnée. Les flocons de neige, au sein desquels les molécules d'eau imposent des angles réguliers à ces cristaux, les six pétales de la jonquille soudés autour de son ovaire hexagonal, les colonnes basaltiques de la chaussée des géants en Irlande du Nord, et certains vortex en rotation, comme la structure nuageuse observée dans la région boréale de Saturne, qui forme un gigantesque hexagone dont chaque côté dépasse le diamètre de la Terre. Pour toutes ces raisons géométriques, et bien plus encore, l'hexagone est une forme remarquable qui vient élégamment peupler nos tables de jeu.
Oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !